Le jeune homme et la nuit, première dans 2 jours, mais derrière, il y a 3 ans de boulot, en gros. Comment Moonguy et le collectif Opéra ont imaginé, pensé cette création?
Le jeune homme et la nuit, c'est un opéra électro-orchestral qui est né, qui est le fruit de notre parcours en fait. Avec Greg, on a fondé Moonguy, on a eu 10 ans de parcours plutôt pluridisciplinaire, on a fait des belles rencontres, on a eu la chance de voyager avec la musique, on a travaillé pour le théâtre, pour le cinéma. Et il y a 3 ans, on a fait un peu le point sur quelle allait être la prochaine étape qui allait nous faire rêver. Pour les 10 prochaines années, en quelque sorte. Et aussi, peut-être un petit peu moins, de façon un petit peu moins autocentrée, comment humblement, en tant qu'artiste, contribuer à l'édifice de notre monde. Et du coup, il y a 3 ans, on a commencé à imaginer une histoire, et une histoire qui aborde des thématiques modernes de notre société, et qui aborde des thématiques comme le vide intérieur, l'obsession de soi, le religieux, la fragmentation de l'individu, et qui parle aussi de la jeunesse et de la quête de sens de la jeunesse. Et on s'est demandé tout simplement comment faire pour raconter une histoire sur scène. Et la réponse était simple, eh bien, ça va être par le biais d'un opéra qui permet justement d'avoir une trame dramaturgique et qui embrasse l'aspect pluridisciplinaire de la création.
Opéra, ça peut avoir un côté un peu ronflant. Quand on se dit, bah oui, en fait, c'est ça qui nous convient, est-ce qu'on se fait pas un peu peur d'être au pied d'une espèce de montagne?
En fait, y a quelque chose, y a un état d'esprit dans le collectif Opéra, chez Moonguy et tous les artistes qui nous accompagnent, de décloisonnement. Et pour décloisonner, il faut aussi embrasser à un moment donné un héritage, accepter notre histoire, l'histoire aussi de la musique, c'est aussi l'opéra. Et on embrasse ça tout en disant qu'on va humblement s'amuser à dépoussiérer le genre. Il n'y a pas de chant lyrique sur scène, c'est bien un opéra électronique et orchestral. Mais l'opéra, c'est ce qui collait le mieux à la création qu'on veut faire, parce que un opéra, c'est une création pluridisciplinaire, avec des costumes, avec des lumières, avec une histoire, et qui raconte véritablement un propos, une histoire.
Et puis ça, finalement, ça vous ressemble bien, même dans Moonguy, les costumes, le visuel très fort, vous avez toujours été là-dedans.
Oui, c'est vrai qu'avec Moonguy, on a toujours la dimension esthétisante, ça a toujours fait partie de ce qu'on est, de notre parcours. Donc quelque part, il y a un continuum assez évident.
Quand on parle d'opéra électro-orchestral, ça veut dire qu'il y a de l'électronique sur scène, de la machine et des instruments.
C'est ça. Sur scène, en fait, il y a les machines, il y a un pianiste nous vient d'Angleterre, qui s'appelle John Herring, et qu'on a rencontré lors d'une autre création, une création précédente en Angleterre. Et il y a un quatuor à cordes qu'on a appelé qui se nomme bien heureusement le quatuor opéra. Et donc voilà, et il y a également aussi 2 comédiens qui font avancer la trame dramaturgique du cinéma, et puis plein de surprises.
L'idée, c'est aussi que le spectateur, il va pas être juste spectateur, si j'ai bien compris. Dans le cadre des représentations, vous le placez au centre de cette trame.
C'est exactement ça. L'idée, c'est que le spectateur soit acteur du spectacle. Et pour cela, il y a toute une partie interactive, en fait, qui est intégrée à l'opéra. Et même dans la façon dont le cinéma raconte l'histoire, on a tout tourné en ce qu'on appelle en vue subjective. C'est-à-dire que le spectateur, en fait, est placé au cœur de l'action, au cœur de l'image.
Vue subjective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est, c'est un tournage caméra à l'épaule,
C'est
c'est...
ça, en fait. Donc la vidéo a été est portée par un artiste qui s'appelle Singe, qui vient du collectif du studio Shift Team. Et donc Singe a tout tourné avec en caméra, comme si c'était lui le personnage principal. C'est-à-dire que les acteurs se sont adressés à lui comme si c'était lui le personnage principal. Ce qui fait que le public devient le personnage principal de l'histoire, en fait.
Est-ce que...
S'il accepte de rentrer dans la peau de ce jeune homme qui s'appelle Nathanaël, qui est le personnage principal de l'histoire.
L'interaction, elle se passe comment? Parce que, ok, on est placé au centre, et en gros, on peut comprendre qu'il va y avoir du face caméra, on va avoir l'impression qu'on nous parle. Comment on interagit, nous?
En fait, comme le public on aimerait que le public devienne le personnage principal. Eh bien, le personnage principal, il y a des moments dans sa vie, dans son parcours, le parcours initiatique qu'on va suivre, il va devoir prendre des décisions, il va devoir agir. Eh bien, on va demander au public de prendre des décisions et d'agir aussi en conséquence. Je ne peux pas tout révéler, par contre, il faut garder quelques surprises.
C'est important, effectivement. Les influences qu'il y a derrière cette création, parce que quand on parle d'opéra au sens un peu moderne du terme, on pense aussi opéra rock, on pense, je sais pas, les années 70, les Who, enfin, il y a plein de choses. Où est-ce que vous êtes allé piocher ?
C'est pas tant dans le genre opératique que plus dans nos coups de cœur ou références artistiques dans d'autres disciplines. Je pense à la littérature, je pense à la musique, mais pas forcément dans un genre opératique, en fait. Dans l'écriture de l'histoire, avec Greg, on s'est imprégné en fait de nos coups de cœur littéraires, comme un auteur comme Paul Auster par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle Moon Palace, qui est aussi le récit d'un parcours initiatique qui nous parle beaucoup. Et pour la musique, nos influences sont dehors de la musique classique, mais aussi de la musique électronique en fait, comme ce qui était déjà le cas finalement dans nos créations précédentes.
Tu disais que humblement vous aviez envie de contribuer en tant qu'artiste à l'évolution et au quotidien de notre société. Comment est-ce que vous avez endossé ce costume-là, qui n'est pas forcément ce que vous avez fait jusqu'ici avec Moongai, on était vraiment dans quelque chose d'artistique. Ouais. Qu'est-ce qui fait sauter le pas ?
En fait, de vieillir, je pense tout simplement. C'était assez personnellement assez naturel, dans le sens où moi je viens de la sociologie au départ dans mon parcours, et j'ai toujours adoré la partie enquête de terrain, où justement on fait beaucoup d'interviews avec les gens, on prend le temps de poser des questions sur la vie des gens, sur un sujet en particulier évidemment. Et en fait, pour moi, naturellement, quand j'ai eu 30 ans, et Greg aussi, on s'est dit que voilà, c'était aussi le moment, à un moment donné, de pas simplement créer pour soi, même si c'est toujours pour les autres, mais aussi à un moment donné d'interroger modestement le spectateur, le public, sur des questions qui nous interrogent, nous, déjà personnellement, en fait. Tous les personnages de l'histoire sont inspirés de personnes réelles. C'est vraiment la matière première de l'opéra. Donc c'est une façon en fait de tendre un miroir sur notre monde, et si cela peut permettre aux gens de se poser quelques questions, on serait ravis.
Il y a quelque chose pour l'instant, en tout cas de ce qu'on a pu en voir via le teaser, via le visuel, quelque chose de pas très rassurant qui se dégage du Jeune homme et la nuit, d'ailleurs même le titre, hein, tout ce qui est nocturne. Ça peut inspirer aussi la peur. Est-ce qu'il y a quand même, est-ce que sans tout dévoiler, on est dans quelque chose qui peut amener un sourire ?
Il y a énormément de rire, en fait, dans l'opéra. C'est-à-dire que, de toute façon, généralement, quand on aborde un parcours où il y a une connotation assez dramatique, il faut du rire, il faut sourire pour pouvoir aussi faire entendre ces sujets-là. Donc il y a beaucoup de rire dans l'histoire, il y a des moments de lumière, et la fin de l'histoire va aussi beaucoup vers de la lumière, en fait.
C'est presque spirituel, là, en fait. Hein.
je ne sais pas, on demandera aux spectateurs à la fin du spectacle. Mais en tout cas, oui, il y a peut-être une dimension spirituelle dans les thèmes qui sont abordés, oui.
On imagine que, enfin voilà, vous êtes tous les deux derrière ce projet, bien sûr, toi, Eva, Greg également. Au-delà de ça, on a commencé à en parler, il y a du monde. Mm-hmm. Comment ça se construit, même concrètement, ce type de projet ? C'est-à-dire qu'il faut des moyens, il faut des partenaires, il faut... Est-ce que ça a été un gros boulot aussi, on imagine ?
C'est un très, très gros chantier. On a commencé à chercher des partenaires donc pour l'aspect... soutien matériel, il y a déjà plus de 2 ans. On a la chance d'être soutenu par la ville de Nantes, de Saint-Herblain, de Saint-Nazaire, par la ville, par le département, par la région, par aussi des mécénats privés, dans l'idée du décloisonnement artistique. Dans cette prolongation-là, on chérit particulièrement l'idée d'un décloisonnement aussi, même dans nos partenaires, que les mondes se croisent, en fait, que le monde de l'entreprise croise le monde du public. Et donc, on a un panel de partenaires assez panaché. Après, sur la partie artistique, il y a des gens qui sont présents sur cette création, qui nous accompagnent déjà depuis plus de 10 ans. Je pense à notre ingénieur lumière, par exemple. Je pense à Singe, qui nous accompagnait déjà sur Moongai, sur nos créations précédentes. À Thomas Ponce aussi, qui réalise une part, qui fait de l'animation là dans le projet, et avec qui on avait fait la petite série Hypermonde dans Moongai. Et en fait, on a commencé après à réunir, à aller chercher d'autres artistes pour lesquels on avait un coup de cœur. Je pense aux artistes nantais à deux doigts qu'on a fait travailler sur le visuel de l'opéra. Et puis j'en oublie évidemment bien d'autres. Je pense aussi au metteur en scène Christophe Rouxel qui est venu prêter son regard expert sur la création. Et voilà, il y a énormément de gens qu'on a réussi à fédérer sur le projet et on en est ravis. Ça crée une très très belle dynamique. Ça crée une dynamique magnifique.
On est à 2 jours de la première. C'est une question banale, mais on se sent comment à 2 jours de dévoiler 3 ans de boulot ?
Très serein, enfin, pour ma part en tout cas. Plus ça approche généralement, plus je m'apaise, je me recentre. C'est aussi dans ces moments-là que tout se met en place. C'est comme un puzzle en fait. On a cherché les pièces du puzzle pendant 3 ans. Certaines, on a été les construire, on a cherché loin, on a beaucoup travaillé tous ensemble. Le tournage, ça a été une grosse pièce du puzzle et qui nous a permis de faire de très belles rencontres, notamment avec des figurants. Et aujourd'hui que tout s'aligne, on est fiers, on est heureux
de présenter ça. Les planètes sont alignées.
Les planètes sont alignées. Et puis c'est aussi une récompense pour toute l'équipe qui a donné beaucoup de son temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Ça va être un bon moment.
Le jeune homme et la nuit, donc c'est à voir là à l'Onyx cette fin de semaine, c'est une création qui va vivre encore après. Hein.
Ouais. Il y a une prochaine date dans la foulée le 28 octobre à Plohermel, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Brocéliande Fantastique. Et après ça, il y aura une reprise en 2017.
Dernière question, qu'en est-il de Moongai dans tout ça ? Il y a des choses qui arrivent aussi ?
En fait, Moongai s'approprie la partie musicale de l'opéra. Et donc, il va y avoir un album qui va sortir sous le nom de Moongai et qui portera donc bien les musiques de l'opéra.
2017 aussi ?
2017 aussi.